Mais qu'a-t-elle fait pour mériter ça? Puisque nous fêtons cet été le 50e anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune, on pourrait peut-être lui lâcher la grappe à notre cher satellite et arrêter de dire d'un abruti qu'il est con comme la Lune. Même chose pour les balais d'ailleurs, con comme un balai. C'est très offensant pour les balais. Notre sujet du jour est vaste, vous l'avez compris, il s'agit de la connerie. Elle a fait une entrée remarquée dans les librairies cette année. Plusieurs livres sont venus ausculter la connerie avec tout le sérieux qu'elle nécessite. Psychologie de la connerie, un ouvrage collectif, mais aussi Que faire des cons, livre de philosophie, ou encore Kit de survie face aux sales cons, qui serait plutôt un guide pratique pour affronter la vie en entreprise. À n'en pas douter, ce phénomène éditorial signifie quelque chose. Et il pose la question de notre attitude face au con. Je précise d'emblée qu'on est toujours le con ou la conne de quelqu'un d'autre, qu'on soit des petits cons de la dernière averse ou des vieux cons des neiges d'antan. La légende raconte qu'en tombant sur le slogan « Mort au con », le général de Gaulle avait répondu « Vaste programme ». Alors attention, notre propos aujourd'hui n'est pas de nous débarrasser des cons, mais de chercher comment vivre avec eux. Comment supporter les cons? C'est la question qu'on se met sous la dent jusqu'à 13h.
Le débat du midi. Dorothée Barba sur France Inter.
Et vous imaginez bien qu'on a choisi avec soin nos invités du jour. Il nous fallait une sémiologue, spécialiste de l'étude des signes du langage. Bonjour Ophélie Hetzel.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter. Vous êtes prof de sémiologie à l'ECV, école de design et d'animation, également au CELSA, école de journalisme et de communication. Vous êtes collaboratrice de Sémiosine, agence de conseil en sémiologie pour les entreprises. Et alors je vous ai repéré récemment dans un documentaire diffusé sur Paris Première qui s'appelait « Les cons, une espèce presque rare », film signé Emmanuel Lebert. C'est donc la deuxième fois que vous intervenez en tant que spécialiste sur ce sujet. Ça va devenir une habitude. C'est dangereux ?
Oui, je ne sais pas comment le prendre en fait.
Vous n'avez rien écrit sur la connerie, je le précise.
Non, pas encore, mais peut-être que ça viendra après tout.
Le sujet vous intéresse ?
Oui, beaucoup. En fait, pour le documentaire d'Emmanuel Lebert, j'avais été sollicitée initialement pour une exploration étymologique, linguistique, et ma foi qui a été passionnante parce que c'est un drôle de petit mot. Et justement, sa petitesse le rend extrêmement malléable, très utilisé par tout le monde, plusieurs fois par jour, et il fonctionne presque comme une interjection. Oui. Et de là, eh bien oui, je me suis penchée sur cette question de la bêtise, du con, de la connasse, du connard. Et ma foi, de pouvoir dire plein de gros mots avec autant de sérieux, c'est un certain plaisir.
Voilà, ça fait plaisir de dire des gros mots sur France Inter. Mon deuxième invité est le directeur de la publication, fondateur également du magazine Sciences Humaines. Bonjour Jean-François Dortier.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter. Vous avez participé à l'ouvrage collectif dont je parlais à l'instant, Psychologie de la connerie. C'est un carton en librairie, je crois.
Oui, c'est un best-seller qui nous a un peu surpris. On n'est pas habitué dans le domaine des sciences humaines à avoir des best-sellers. Il est à plus de 65 000 exemplaires vendus. Il y a 17 traductions qu'ils ont en cours. Alors évidemment, c'est un sujet fertile aussi, hein. Même pour ceux qui s'intéressent à l'humaine condition, comme moi, je fonde des sciences humaines pour essayer de comprendre ce que t'es les êtres humains. Mmh. Donc, il faut les étudier sous toutes les coutures, sous toutes les dimensions. Les femmes, les hommes, les jeunes, les vieux, les samouraïs, les aborigènes. Et puis aussi, si, comme le disait le philosophe, rien de ce qui est humain nous est étranger, alors il faut essayer d'explorer aussi l'imbécilité, la sottise, enfin toutes les formes qu'on peut donner à ce qu'on appelle couramment la connerie.
Et mon troisième invité est un chanteur, pas n'importe quel chanteur.
Merci vieux con, t'as vraiment eu une vie de merde. Merci vieux con de l'avoir gâché pour nous. T'as bien raison, on est tous des feignants maintenant. Le RMI et des capotes, ça nous suffit pour être contents. Merci vieux con, t'as vu le bordel que tu nous laisses. Merci vieux con, en plus maintenant faut te payer l'hospice.
Bonjour Didier Super.
Ah, c'est à cause de cette chanson-là que vous m'avez invité, je me demandais ce que je foutais là.
Ah bah justement, c'était ma première question. Pourquoi pensez-vous qu'on vous a invité dans une émission sur les cons?
Eh ben, parce que vous avez peut-être compris que j'essaye d'en faire un fonds de commerce depuis bientôt 20 ans. C'est ce que je me suis dit, peut-être, c'est ça.
Vous n'avez pas peur d'être un peu le con de service dans cette émission ?
Eh bien, c'est pour ça que je suis très content de faire une intervention courte, finalement, pour des raisons techniques.
Oui, parce qu'il devait être en studio, il est finalement au bout du fil, donc on ne pourra pas rester toute l'heure avec vous, malheureusement. Alors, sur votre site internet, Didier Super, on trouve vos dates de concert, notamment. On lit, par exemple, que vous serez au festival Scène de rue à Mulhouse la semaine prochaine, les 19 et 20 juillet. Mais on trouve aussi des aphorismes, des pensées, des fulgurances, et par exemple celle-ci, « Aime les cons, tu t'aimeras toi-même ». Voilà qui nous permet d'aborder ce sujet important. Est-on tous des cons ici présents, Didier Super ?
Ben, j'ai réfléchi sur le thème et en général, les gens que j'ai trouvés les plus cons au cours de mon existence sont souvent ceux qui n'ont aucun doute sur le fait de ne pas l'être.
Ah.
Donc voilà, du coup, je pense que pour ne pas l'être, ben, faut se l'estimer un minimum con.
Donc c'est une question d'arrogance, de certitude, la connerie.
En tout cas, pas être trop con, c'est une affaire d'humilité, ouais.
Mmh. Une autre de vos chansons d'ailleurs porte sur la connerie, elle s'appelle « Ben t'es con », tout simplement, Didier Super. Est-ce qu'elle marche bien sur scène, en concert, particulièrement, ces deux chansons-là, celles qui abordent ce vaste sujet ?
Bon, celle que tu viens de passer là en radio, je la joue plus depuis 2007, je pense, et l'autre depuis 2005, donc...
Aïe, c'est un sujet ringard alors, la connerie ?
Bah en tout cas, il n'est pas nouveau. Hein. Ça fait une référence au général de Gaulle. Et je pense qu'avant lui, des gens pouvaient en parler. Ouais.
Alors, comment supporter les cons, à votre avis ?
Ben, je pense que le personnellement, comme c'est mon fonds de commerce, j'aime bien leur donner beaucoup d'amour, comme à des petites plantes. Je pense que on est obligé de les... Pour pas se sentir à leur niveau, pour se sentir à un niveau supérieur, on est obligé de les aimer finalement. Par contre, il y a quand même un phénomène assez nouveau aujourd'hui qui fait qu'on a presque peur que les cons deviennent la norme.
Oui.
Il y a quand même une espèce de multiplication de la connerie, que ce soit dans beaucoup de domaines, et pas que les violences policières, hein, mais aussi les propositions de la politique, que ce soit les programmes télé. Et je suis en train de me dire que le con que je chasse depuis une vingtaine d'années avec passion, ben finalement j'ai l'impression d'être un chercheur d'or qui trouve un champ plein d'or et puis que l'or finalement n'a plus de valeur. Et j'ai un petit peu peur de ça.
Alors je vous signale que nos deux spécialistes en studio, la sémiologue et le sociologue, sont en train de prendre des notes. Hein. Ils grattent tout ce que vous dites, les passionne. Merci mille fois Didier Super d'être intervenu.
Ça va, de toute façon je le sais, ça va se retourner contre moi.
Pourquoi ?
Comme vous l'avez dit au début.
Ah, parce que vous êtes le compte service.
Mais c'est pas grave, t'as dit que t'allais annoncer mes dates derrière.
Voilà, exactement, je le fais tout de suite. Alors, Didier Super sera en concert ce soir. Attendez, d'abord je dis les dates, on fait ça ? Ce soir vous serez en concert à Marcinelle en Belgique, 19 et 20 à Mulhouse, festival scène de rue, le festival Musique à la rue à Luxeuil dans les Landes, ce sera le 15 et le 17 août, et puis le 8 septembre à Saint-Malo. Merci Didier Super. Bon, c'était super. Bah, il est déjà parti. Merci Didier.
Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, entre vous plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant, petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Vous les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons, qui ne le niez pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons, qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, 20 ans qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses. Con caduc ou con débutant. Petit con de la dernière averse. Vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse. Vieux con des neiges d'antan.
Alain Souchon chante Georges Brassens. La connerie dans le débat de midi, émission préparée par Cyril Marchand, réalisée par Lola Costantini, Clément Berman à la technique, programmation musicale Jean-Baptiste Audibert. Le jour où on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Le débat de midi, Dorothée Barba.
Je suis malheureuse parce que je suis conne et que tout le monde est con.
Le temps ne fait rien à l'affaire quand on est con.
Un dîner de con.
On est
oh,
con.
Oh le con, oh le con.
Toi ah, t'es moche, puis t'es con. Enfin, vous êtes con, quoi. Mmh. T'es très con, je te le dis.
T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord, hein. Un espèce de merde qui chiale sa race toute la journée. Voilà ce que t'es, connard. Connard, connard.
Est-ce que tu peux être con? T'es même pas con, t'es bête. Tu sais rien, tu vas jamais au cinoche, tu te tiens au courant de rien. Si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Quand on te regarde par en dessus, on doit voir tes dents.
Sacrément con, j'ai même jamais vu un con pareil.
Alors quand on est con comme ça, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de fermer sa gueule.
Oh, oh mais quel con. Oh, oh quel messie, t'as un con.
Oh putain, le con. Oh, le con. Oh, merde.
Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
On est avec la sémiologue Ophélie Hetzel et avec l'humanologue, c'est ainsi qu'il se présente. Humanologue, ça vous va, hein, Jean-François Dortier, qui a participé à cet ouvrage collectif qui est paru cette année, Psychologie de la connerie. On l'entendait à l'instant, il y a un délice de l'insulte. Il y a c'est voluptueux finalement, ce mot con. Absolument. Quand on le prononce, Ophélie Hetzel.
Absolument. Il ouais. est voluptueux, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'il est court et qu'il fonctionne comme une interjection. Il est monosyllabique et bien souvent même on peut le prononcer sans s'en apercevoir. On peut se ah le con ou quel con ou qu'est-ce que je suis con. On peut se l'adresser aussi à soi-même quand on fait une connerie, quelque chose qui nous échappe. Et ça c'est le moment vraiment d'une espèce de décharge que permet la langue, qui est une décharge affective, physique, et qui passe par ce tout petit mot qui est comme une petite bombe qu'on s'autorise.
Je repense à Didier Super qu'on avait en ligne tout à l'heure. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a joué au con ?
Absolument, il me semble que c'est assez clair tout à l'heure à faire comme s'il comprenait pas vraiment les questions ou d'être le dindon de la farce ou le con de service qui revenait à peu près au même. Et il me semble que justement il y a dans l'attitude qui prétend à la stupidité, hein, et j'utilise le mot prétendre à dessein, quelque chose d'assez subversif,
quelque chose qui va bien pour le coup,
permet la critique. Quand il parle là du RMI et des capotes et de l'hospice, c'est aussi une manière de pouvoir traiter de toute la misère sociale et humaine qui, hélas, gagne du terrain, et de le faire en étant un éclaireur de conscience prêt au sacrifice de son propre narcissisme. C'est-à-dire, en effet, il a l'air complètement débile, mais c'est par cette débilité que, du coup, ils peuvent se faire entendre. Un petit peu comme le fou du roi, finalement.
Jean-François Dortier, c'est pas simple de jouer au con?
Non, et puis on peut se prendre au jeu. Faut faire très attention. Parce qu'on glisse rapidement aussi, hein, à ce petit jeu-là. D'abord, on trouvera toujours plus con que soi. Mm-hmm. Et puis, on peut, moi ça m'est arrivé, hein, de me prendre au jeu dans des conversations avec des gens où jouer la provocation, parfois, peut nous pousser à croire finalement à ce, prendre le double jeu et de se prendre soi-même au piège. Donc faut faire quand même attention.
Alors, je le disais, vous avez participé, Jean-François Dortier, à ce livre important qui jette les jalons d'une science de la connerie, n'ayant pas peur des mots. C'est ambitieux comme projet, non, la psychologie de la connerie?
C'est très ambitieux, effectivement, mais comme je le disais tout à l'heure, voilà, ça fait partie de l'humaine condition. Ouais. Alors, il faut chercher et l'explorer. Alors, évidemment, ce n'est encore que des prolégomènes à une science de la connerie, parce que c'est pas une théorie d'achevée, c'est une hypothèse de travail sur le fait que, pour comprendre un certain nombre de phénomènes humains, en société, en politique, en histoire et dans les relations en famille, au travail, eh bien, l'hypothèse de la connerie, qui peut être une connerie essentielle, c'est là quand on parle des cons, mais qui peut être aussi une connerie de circonstance, tout le monde fait des conneries. Donc la première chose à faire, c'est de bien distinguer la connerie d'exception et puis de la connerie par nature. Alors moi j'ai tenté par exemple dans ce livre-là de faire une sorte de typologie des formes de conneries, parce que c'est pas un concept rigoureux, bien entendu. Hein.
Alors la typologie, ça implique de trouver des synonymes, évidemment.
Oui, alors
des sous-catégories plutôt.
Oui, oui.
Alors, allons-y.
Alors là, il y en a de multiples. Des Moi, j'ai commencé de A à Z, donc j'ai commencé par l'arriéré. Mmh. J'ai fini par le zinzin. Alors l'arriéré, pourquoi ? Parce que les arriérés, qu'on appelle aussi les débiles, les imbéciles, les idiots,
langage
la stupidité,
issu de la psychiatrie, hein.
Qui est issu de la psychiatrie. Alors c'est important parce que justement, on a étudié pendant très longtemps l'intelligence et le génie en psychologie, mais en fait, les travaux ont commencé par l'étude de la débilité. Par exemple, le premier test d'intelligence, qui a été créé en 1905 par Binet et Simon, ces deux psychologues français, ont été faits dans un cas très particulier. C'était pour permettre de sélectionner les enfants qui ne pouvaient pas suivre l'école obligatoire qui venait d'être décidée par Jules Ferry.
Donc pour les dispenser.
Et voilà, on s'aperçoit qu'il y avait des enfants qui ne pouvaient pas accéder à la lecture et l'écriture. Il fallait donc les mettre dans des établissements spéciaux. Comment savoir s'ils étaient capables ou pas? Eh bien, on a créé un test d'intelligence. Mais le test d'intelligence, c'était pas pour repérer les surdoués, les précoces comme aujourd'hui. C'était pour repérer ceux qu'on a appelés les débiles légers, puis les débiles profonds, les idiots. Il y avait toute une gradation dans la débilité. Et ces termes aujourd'hui qui paraissent d'ailleurs débiles.
C'est très dur.
Idiot,
hein. C'est beaucoup plus dur.
Voilà,
de
c'était des
de
catégories psychiatriques. Mmh. Voilà, c'était des catégories psychiatriques ou psychologiques, et elles n'étaient pas péjoratives. Un idiot au 19e siècle, dans la langue de Philippe Pinel, qui est le père de la psychiatrie française, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un autiste.
Oui, oui, c'est des termes qui avaient des valeurs de description médicale, en
oui.
fait. Hein,
Et d'ailleurs, on dit aussi, d'ailleurs maintenant, il s'est resté dans le vocabulaire pour parler des gens qui ont les syndromes comme le syndrome d'Asperger. Pendant longtemps, on a parlé des idiots savants. C'est-à-dire des gens qui peuvent avoir un retard mental dans un certain nombre de domaines et puis en même temps avoir d'autres qualités ailleurs. Bref, et il y a aussi des idiots du village, il y a aussi
des zinzins.
Il y a aussi des zinzins, des zouaves, des voilà, parce qu'il fallait terminer par Z, donc pourquoi pas les zinzins. Et entre-temps, alors les beaufs font partie aussi de ce qu'on appelle
les cons. Les beaufs sont des cons. Dans votre typologie, puisque c'est une typologie de la connerie.
Bien sûr, parce qu'ils sont bêtes et méchants, tels que les a dessinés. Le premier, c'était Plantu qui a donné cette, qui a mis en vogue le terme de beauf. Alors le beauf, c'est quoi? C'est le beau-frère, c'est celui qui est raciste, sexiste, un peu bas du front, les rednecks, on dit aux États-Unis, et qui a une pensée de type point barre, qui finit par ses phrases aujourd'hui par point barre, c'est comme ça, c'est pas autrement, point, bref, qui est rigide, qui est carré, et ben ça fait partie évidemment du profil du parfait connard.
Le vocabulaire de la connerie est sans fin, en effet, Ophélie Hetzel, ça peut pas être un hasard, hein, cette richesse sémantique.
Ah ça, je sais pas si c'est pas un hasard, je pourrais pas répondre à cette question. En revanche, là, dans les caractéristiques du beauf qui renvoie en effet à la sphère familiale d'une part et à une classe sociale d'autre part, hein, puisque les rednecks c'est bien ça, hein, c'est quand même le monde ouvrier, etc. Il me semble qu'il y a deux choses qui se disent sur à la fois le respect des normes, le beau-frère incarnant l'institution familiale à laquelle on doit se soumettre avec tous les repas de famille qu'on imagine si sinistre, pénible et stupide. Mmh. Je rappelle que stupide a la même racine que stupeur, hein, donc ce qui nous laisse absolument stupéfaits. Mais également quelque chose sur ce qu'il faut penser ou ne pas penser, ce qu'il est bon de penser ou de ne pas penser. Le beauf, de ce point de vue, est l'imbécile, inculte, à la pensée simpliste, etc. Ce qui fait que dans l'usage du mot con, il me semble qu'on peut aussi lire au-delà de l'usage intempestif que chacun peut en faire, un usage presque méprisant,
Il y a du mépris de classe dans ce mot-là.
Je pense que, en tout cas, la connerie serait un des derniers bastions à partir du moment où les signes extérieurs de richesse dans le monde occidental peuvent s'échanger sans que personne ne s'aperçoive si on a les bonnes Adidas, les dernières Nike ou je sais pas quoi. C'est-à-dire un pauvre, il peut être pauvre, mais avec les bonnes marques sur le dos. Il me semble que, si je dirais, cette valeur intérieure, censément non quantifiable et invisible, que serait l'intelligence ou son inverse, la bêtise, devient un des derniers bastions de la distinction. Et que, précisément, les réseaux sociaux et l'ampleur qu'ils peuvent donner à des paroles plus ou moins instruites, plus ou moins stupides, plus ou moins réactionnelles, permet de dire un petit peu le bon grain de l'ivraie. Et c'est pourquoi le sujet de la connerie, même s'il nous encourage à un certain rire, un certain plaisir dans le maniement des grossières, et y compris voilà du jeu d'autodérision auquel se livrait Didier Super tout à l'heure. Malgré tout, il me semble que c'est un sujet assez sérieux et que peut-être l'intérêt qu'il semble susciter aujourd'hui manifeste précisément que ce serait l'endroit où il faudrait se déterminer absolument. Être con,
il faut décider si on est con ou pas.
Telle est la question aujourd'hui, et que dans un monde régi par ce qu'on appelle l'économie de la connaissance, eh bien, il faut surtout pas être con.
Ce que vous dites, c'est que tous ces livres qui sortent en même temps sur ce même sujet, la connerie, ça, c'est pas innocent. Ça révèle une obsession contemporaine.
Alors, en tant que sémiologue, je ne peux que je ne peux que me confronter à un signe et me demander ce qu'il manifeste comme un symptôme. Hein. La sémiologie travaille un petit peu comme ça. Et donc, je pense que ça manifeste d'une part un enjeu de pouvoir au sens politique du terme, et je dis ça y compris là, dans cette période particulière des gilets jaunes, où justement il y a un certain nombre de phrases qui ont pu être prononcées et qui manifestaient un mépris de classe assez évident, et de savoir qui sait, qui ne sait pas, qui a le droit de s'exprimer, qui n'a pas le droit, et de tous les pans de parole qu'on disqualifie, sans pour autant dire que toute parole est merveilleuse. Hein, je suis pas dans une naïveté relativiste, c'est pas du tout le propos. Mais donc il me semble que la connerie, elle engage en effet, elle manifeste en tout cas la question des structures de pouvoir, mais aussi la question des inquiétudes contemporaines sur la place qu'on occupe à la fois les uns vis-à-vis des autres, donc sociologiquement je dirais, mais aussi avec les nouvelles mythologies que sont l'intelligence artificielle, la sensibilité du monde animal et pourquoi pas la conscience du monde animal. Il me semble que tous ces thèmes-là tissent entre eux un dialogue encore souterrain, mais que peut-être vous, en tant qu'humanologue, vous pourriez faire émerger avec intérêt.
Jean-François Dortier, c'est intéressant. Ophélie Hetzel parle à l'instant d'intelligence artificielle. Vous évoquez dans votre ouvrage « La psychologie de la connerie » une déclaration de Gérard Berry. C'est un grand informaticien, Gérard Berry, professeur au Collège de France, médaille d'or du CNRS, un monsieur brillant donc, qui a déclaré ceci il y a quelques années dans une interview à l'Obs. « Fondamentalement, l'ordinateur et l'homme sont les deux opposés les plus intégraux qui existent. L'homme est lent, peu rigoureux et très intuitif. L'ordinateur est super rapide, très rigoureux et complètement con. » L'ordinateur est complètement con, dit cet informaticien.
Oui, effectivement, parce que des gens comme Gérard Berry, mais il y en a d'autres qui sont des spécialistes de l'intelligence artificielle, puisqu'il est professeur au Collège de France, ne sont pas dupes sur ce que l'on entend beaucoup sur l'intelligence artificielle, dont on suppose qu'elle va dominer l'être humain bientôt avec des capacités extraordinaires. Quand il dit un ordinateur est complètement con, il veut dire quoi? Que même un ordinateur les plus puissants aujourd'hui, comme celui qui a battu récemment le champion du monde du jeu de Go.
Ah, de jeu de Go aussi.
Alors le jeu, mais c'est intéressant le jeu d'échecs, hein, parce que c'était déjà Kasparov en 1997 qui avait déjà été battu aux échecs par Deep Blue, je crois, c'était le nom de l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il sait faire cet ordinateur aujourd'hui? C'est 20 ans plus tard, 22 ans plus tard même aujourd'hui. Il sait toujours uniquement jouer aux échecs.
C'est déjà beaucoup, non?
C'est beaucoup, mais il ne fait rien d'autre. Donc en ce sens-là, ce que dit Gérard Berry, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. On imagine que c'est une capacité d'apprentissage, de créativité qui est importante. En réalité, les ordinateurs sont programmés par des humains, ont des capacités souvent très très spécialisées, comme l'est votre téléphone. Il peut avoir une mémoire très sophistiquée, il peut avoir des capacités de perception, des capacités de traiter un type d'information de façon fulgurante, mais globalement, il reste assez idiot.
L'ordinateur étant complètement con, vous pensez, vous aussi, comme Ophélie Hetzel, tous ces livres qui paraissent en même temps pour parler de la connerie, ça révèle une inquiétude humaine connerie à tous?
Je ne sais pas, nous avons pris avec Jean-François Marmion la décision de se...
Dans votre coin, de
publier. Oui, et par la suite, en même temps, il y a eu d'autres initiatives de ce genre-là. Alors on dit, les grands esprits se rencontrent, peut-être aussi ceux qui étudient la connerie aussi. Les raisons fondamentales, je sais pas, j'aurais tendance à être d'accord avec ce que disait Didier Super tout à l'heure, c'est un sujet quand même assez universel et qui date de longue date. Les chansons que vous avez passées à la radio ne sont pas des chansons nouvelles. Bon, alors, est-ce qu'il y a une convergence maintenant d'intérêt pour la connerie? Honnêtement, je ne sais pas.
On parle beaucoup d'intelligence collective. Est-ce que la connerie collective existe?
Bien entendu. Bien entendu, c'est pour ça, moi, je me suis amusé dans ma typologie de retourner un peu les concepts. S'il y a une intelligence collective, il y a aussi une sottise collective dans les groupes humains. Bah, Brassens, tiens, le disait aussi, quand on n'est plus que quatre, on est une bande de cons. Par exemple, on a inventé des outils technologiques très sophistiqués pour communiquer aujourd'hui. Les SMS, les mails, bon, ça n'empêche pas que dans les entreprises, vous avez des réunions qui durent très 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 longtemps, des rendez-vous et des gens qui tapent l'incruste dans votre bureau qui durent très 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 longtemps, ce qui fait qu'on a créé des sortes de millefeuilles d'informations qui fait que maintenant pour prendre un rendez-vous avec faire une réunion de 5 personnes dans un service, il faut envoyer un SMS, puis un deuxième, puis un mail, puis regrouper les gens, puis faire un doodle. Bref, vous passez 3 heures simplement pour prendre un rendez-vous. Ça, c'est une forme de sottise collective.
Alors, vous parlez de l'entreprise, ça me renvoie évidemment à Robert Sutton, qui est un prof de management américain, qui surfe sur le succès de son premier livre. C'était joliment titré « Objectif zéro sale con ». Ça a rencontré un très grand succès en librairie, donc il en sort un nouveau volume, « Kit de survie face aux sales cons », qui s'appuie, et c'est intéressant, sur les réactions de lecteurs qu'il a reçues. Preuve que le sujet intéresse et donne lieu à une interaction avec le lecteur.
Bien entendu, la connerie au travail, ça se décline dans de nombreux domaines. La connerie, ça peut être en famille, on en a parlé, ça peut être au travail. Au travail, ça peut être avec votre supérieur hiérarchique, ça peut être un collaborateur, ça peut être un collègue. Alors donc, comment vivre? Comment survivre?
C'est la question. Dites-nous, c'est vous le spécialiste. Comment supporter les cons?
Alors d'abord, il y a des 4 figures très très différentes. Vous avez des cons sympathiques. Et il y a des cons, on fait avec, au contraire, on recherche leur présence parce que ça vous valorise. Et il y en a d'autres qui sont plutôt néfastes. Donc, alors que faire? Il y a plusieurs catégories. Il faut les cerner. D'abord, il faut cerner quel type de con vous avez en face de vous et quelle est votre position hiérarchique en face. Alors, si vous avez quelqu'un qui est votre supérieur hiérarchique, c'est pas simple. Vous savez, il y a 3 situations dans la vie quand vous avez un gros problème à régler. C'est fuir, combattre ou subir. Alors subir, c'est la pire des choses. Parce que vous rentrez chez vous, la personne que vous ne supportez plus devient votre bête noire.
Donc il vaut mieux fuir la connerie ou la combattre?
Alors, il vaut mieux, effectivement. Éloge de la fuite, disait Henri Laborie parfois. Alors il y a différentes façons de fuir. On peut claquer la porte. On peut aussi simplement se protéger. Il faut apprendre à se protéger. Parce qu'on n'arrive jamais à combattre un con sur son propre terrain. Ou plutôt, non, je dis une bêtise. Je dis une sottise, justement.
Une connerie.
Au travail, vous avez des gens, tout le monde en connaît. Alors, je fais attention à ce que je dis parce que je suis quand même chef d'entreprise. Donc, je précise à mes collaborateurs que je parle de situations fictives, de gens que j'ai rencontrés en dehors d'entreprise parce que, à France Inter, comme à Sciences Humaines, ça n'existe pas.
Aucun. Il n'y en a aucun des cons.
Ok. On est d'accord. Donc, on parle d'autres situations où vous êtes face à des gens quand même qui sont très carrés, psychorigide, inamovible, qui refuse de changer, alors que vous cherchez à avoir un dialogue parfois ouvert. Souvent, dans ces relations-là, vous vous sentez l'intelligent et vous semblez
vous en face. Vous tournez autour du pot, là, Jean-François Dortier. Comment
Qu'est-ce qu'il faut faire?
Comment on le supporte, oui? Comment alors, on le combat? Comment on le
Alors, d'abord, moi, j'ai tendance à penser que, justement, on peut pas être plus intelligent. Il faut pas, c'est pas sur le terrain de l'intelligence qu'on peut désarmer un con.
Okay.
Donc, il faut, souvent, si vous avez un con qui est lâche, ça arrive aussi. Eh bien, il faut savoir l'affronter. Pas un coup de genou entre les parties, hein. Mais il faut savoir, souvent, parce que si vous avez un con lâche, il peut reculer. Tout à l'heure, Didier Super a dit quelque chose d'important aussi. Il dit, il faut savoir les aimer.
Ah, voilà.
Parce que, il peut y avoir un petit cœur tendre qui soit à l'intérieur, qui batte à l'intérieur d'un parfait connard. Donc, parfois, on peut séduire aussi. Donc, il y a mille façons. On peut parfois même descendre un cran au-dessous. Donc, il y a pas de recette miracle.
Bien sûr que non. Mais ce serait trop facile. On peut lire votre épais livre Psychologie de la connerie. Déjà, ça donne quelques astuces.
Voilà. Oui. J'ai écrit aussi, par ailleurs, je vous signale, un livre qui s'appelle Travail guide de survie.
Ah.
On essaye de raconter quelques cas comme ça. Et puis, si c'est un collaborateur et que vous êtes le chef, eh ben, vous le virez.
De personnes. C'était Hubert Lenoir sur France Inter.
Le débat du midi. Dorothée Barba sur France Inter.
Comment supporter les cons? Vaste sujet aujourd'hui dans le débat de midi avec la sémiologue Ophélie Hetzel et l'humanisme. Non, l'humanologue, décidément je n'y arrive pas. Et l'humanologue, c'est ça?
C'est
Jean-François
bien ça, oui.
Dortier, ni sociologue, ni psychologue, ni philosophe, un peu de tout ça. À
voilà,
la fois.
Touche à toutologue. Pour comprendre l'être humain, il faut que toutes les disciplines s'allient entre elles. C'est pour ça que j'ai fondé cette discipline, l'humanologie.
Je salue cet auditeur qui nous a dit « Explorer le continent de la connerie en moins d'une heure, ce sera forcément très frustrant, ça c'est sûr. » Ophélie Hetzel, on n'a même pas encore dit, c'était une aberration, d'où vient le mot « con » ? C'est le sexe féminin, à la base, le con.
Oui, Alors, l'étymologie originelle, elle est assez obscure. On ne sait pas si ça vient du latin espagnol, voire du culus, qui veut dire cul, latin. On ne sait pas très bien. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que, et ça c'est très courant, c'est qu'en effet, initialement, ça désigne le sexe féminin. Ce qu'on sait moins, en revanche, c'est que cette désignation n'est pas insultante. On est quasiment dans une espèce d'argot médical, mais qui n'a pas valeur d'insulte. Et au 14e, 15e siècle, donc moyen français, on a un usage en effet métaphorique qui se met en place, enfin en réalité plutôt métonymique, mais ça, ça fait un peu querelle de spécialiste.
Le contenu pour le contenant.
Le con qui désigne en médecine le vagin va être utilisé petit à petit pour désigner la femme dans son entier. Mais ce processus de la du tout pour la partie n'est pas insultant, encore une fois.
Et donc, j'ai trouvé, donc un con, c'est une femme, vous voulez dire.
Un con, c'est une femme, mais c'est pas une femme au sens d'une femme qui serait stupide ou qui serait méprisable, absolument pas. Et j'ai même trouvé dans le dictionnaire du moyen français un extrait d'une pièce de théâtre datant du XVIe siècle, qui est absolument adorable, et on a un monsieur s'adressant ainsi à sa femme, en lui disant « Oh, mon cher petit con doré ». Voilà, et donc on voit bien que quand on dit à
vous
une femme...
Vous êtes sûr qu'il parle de la femme dans son entier, là ?
Mon cher petit con doré, si, parce que qu'est-ce que tu m'as préparé à manger,
ah oui, oui.
Je ne sais plus.
Effectivement, c'est un
indice. Et elle lui répond du pain, du vin, etc.
Mais ça, c'est un scoop, Ophélie Hetzel. Le con, c'est toute la femme.
C'est toute la femme, et c'est pas une insulte, c'est affectueux. On est plus près du petit chat, mon petit minou, etc.
Alors, c'est devenu une insulte. Est-ce que pour autant, l'insulte est sexiste ?
Oui, et en fait, c'est à partir du XVIIIe siècle que c'est le sens de stupidité va apparaître. Et c'est assez intéressant puisque le XVIIIe siècle fait suite à la mise en place de la grammaire de Port-Royal, XVIIe siècle, grammaire dont on a pas mal parlé ces derniers temps puisque c'est elle qui a institué comme une loi presque divine que en français le masculin l'emporte sur le féminin. Donc c'est assez intéressant que le XVIIIe siècle, siècle humaniste par excellence, hein, qui va penser l'égalité entre les êtres humains, mais on pourra quand même avoir en tête Olympe de Gouges qui militait pour les droits des femmes et pas que des hommes, c'était pas que les droits de l'homme. C'est à ce moment-là que la valeur insultante du mot con va surgir avec le corollaire de faiblesse. En fait, c'est bien ça qui est visé, hein, avec un rapport avec le terme d'imbécilité, l'imbécilité étant entendue comme une faiblesse à la fois physique et mentale, et con devient le synonyme argotique de faiblesse, et les femmes, comme vous le savez, c'est
faibles.
Le sexe faible.
Bien sûr. Voilà. Est-ce à dire que lorsqu'on l'emploie aujourd'hui, ce mot, il est aussi sexiste ?
Je ne crois pas. Enfin, oui et non. Char disait que les mots savent de nous des choses que nous ignorons d'eux. Donc oui, le mot con continue de marquer le sexe féminin et de marquer l'essentialisation du mauvais genre féminin, bien sûr. Pour autant, con se décline en conne. Et j'ai envie de dire que le masculin de con, puisque son féminin existe, hein, la conne, le masculin de con a une valeur qui peut s'appliquer aussi aux femmes. Moi, il peut m'arriver, en m'adressant à moi-même, de me dire « mais qu'est-ce que je suis con ?»
Oui.
Et pas « qu'est-ce que je suis conne ?» Enfin, voilà, le con a une valeur générique par rapport à la spécificité genrée féminine de conne.
Ce mot a-t-il la même valeur d'ailleurs, la même puissance d'insulte au masculin et au féminin à votre avis ?
Alors con, je l'ai dit à plusieurs reprises, il est interjectif, donc il peut s'utiliser absolument n'importe quand. Conne, on est dans une spécification qui va beaucoup plus loin, de même que connard ou connasse d'ailleurs, hein, où là dans connard et connasse, on va viser au-delà du comportement stupide, un manque d'intelligence éthique, un manque de morale, on va viser l'arrogance, la prétention, la violence, la méchanceté, la malveillance, etc., etc. Mais dans conne, j'ai envie de dire, on surligne le féminin du mot con qui était un petit peu passé sous silence.
C'est plus grave, pour le dire trivialement, c'est plus grave, pauvre conne,
oui,
que pauvre con.
Oui.
Oui.
Il me semble que c'est plus grave. Après, il faudrait faire une étude scientifique vraiment très poussée sur le sentiment des locuteurs.
On est avec un autre éminent spécialiste de la connerie. Bonjour, Jean-François Marmion.
Et non pas avec un autre con, s'il vous plaît.
tous des cons, mes invités du jour. Bienvenue sur France Inter.
Merci.
C'est vous qui avez coordonné cet ouvrage collectif, cet épais livre consacré à la connerie, Psychologie de la connerie, qui est un succès de librairie, on le disait tout à l'heure. Vous diriez-vous que c'est un mot vulgaire ou un mot grossier, con ?
Oh, il y a une infinie palette pour parler des cons. Évidemment, casse-toi pauvre con, c'est pas la même chose que casse-toi sale con, vous voyez ?
Ouais.
Ou casse-toi petit con, ou casse-toi gros con. À chaque fois, c'est différent, ça dépend. En plus, ça peut être un compliment, hein, quand on dit à quelqu'un « Oh, t'es con », ça veut dire « tu me fais rire alors que je sais
pas. » Ah, ça c'est vrai, ça veut dire que t'es drôle aussi, oui.
Oui, c'est ça. Donc, ça dépend vraiment du contexte, à qui c'est adressé, et quelle est l'émotion qui sous-tend l'insulte. Si tant est que ça en soit toujours une.
Vous rejoignez Ophélie Hetzel pour dire que l'avalanche de livres sur la connerie en librairie est un signe des temps ?
Disons que c'est un signe qu'on ose un peu se lâcher que côté vocabulaire. On ose un peu parler de conneries, appeler un chat et un con, un con.
Mm-hmm.
Autrefois, il y avait des livres sur la bêtise. Il y a 50 ans, il y avait le dictionnaire de la bêtise de Jean-Claude Carrière et Guy Bechtel, par exemple. Mais ou le dictionnaire des idées reçues, quelque part, c'était aussi un livre sur la connerie. Le vocabulaire a changé, on se lâche un peu. Peut-être qu'il y a une petite vague marketing qui se dessine derrière, qui durera ce qu'elle durera. Mais je pense que la connerie est un sujet qui a toujours fasciné. Ça fait 25 siècles qu'on en parle, sous quelques noms qu'on l'appelle. Et on n'a pas fini d'en parler, évidemment, c'est inépuisable.
Je précise qu'il y a dans cet ouvrage collectif d'éminentes plumes, hein, Jean-Claude Carrière, Boris Cyrulnik, pour ne citer qu'eux. Vous écrivez que la connerie n'a jamais été aussi visible qu'aujourd'hui, décomplexée, grégaire et péremptoire. Sur quels indices vous appuyez-vous pour dire ça ?
Nous sommes tous plus visibles qu'auparavant.
Nous autres les cons, vous voulez dire ?
Oui, aujourd'hui, pour laisser aucune trace nulle part sur Internet, il faut presque le faire exprès, c'est rare quand même. Donc on est tous plus visibles, et évidemment, les cons le sont au même titre que les autres. Pourquoi s'en priverait-il ? Ce serait trop beau. Et simplement, les cons sont plus visibles aussi parce qu'ils sont plus énervants. Et ça donne un effet de masse, mais ils occultent tout le reste, ils éclipsent le reste. Il n'y a pas que des cons sur les réseaux sociaux, c'est pas vrai. Simplement, ils nous énervent, ils monopolisent notre attention, et ils nous stressent. La réponse au stress, c'est normalement c'est être soit prêt à s'enfuir, soit prêt à contre-attaquer. Mais en tout cas, c'est épuisant. Et nous sommes programmés pour nous focaliser davantage sur ce qui nous stresse que sur ce qui nous apaise, sur le danger que sur le répit. Et donc, les cons sont un peu toujours perçus comme des agressifs qui viennent gâcher notre instant présent sans eux. Après tout, la vie est très belle. On demande qu'à bien s'entendre avec tout le monde, on demande qu'à être tranquille. Et puis, il y a un con qui vient dans nos pattes, qui nous gâche la journée, parfois qui nous gâche notre vie entière, jour après jour. Et voilà, c'est une espèce de coulure, de tache dans le paysage.
Et vous pensez qu'on peut chacun faire des efforts pour mieux les supporter, les cons ?
Alors, je pense qu'on a guère le choix, parce que si on part du principe qu'on ne peut pas les supporter, il nous reste la pendaison ou le désert. Hein. Peut-être que dans l'idéal, alors une réponse bien cupide et peut-être un peu con, dans l'idéal, ce serait d'essayer de les aimer quand même. Parce qu'après tout, regardez dans votre entourage.
Comme Didier Super, enfants, on en revient toujours voilà. Là.
Mm. Regardez vos enfants, regardez vos meilleurs amis, regardez la personne dont vous êtes amoureuse. C'est pas des cons.
Mais je vous permets pas, oui.
Il y a des gens parmi eux, si vous n'étiez pas si proche, peut-être que vous les trouveriez un peu cons, mais là, peut-être qu'ils ont des défauts, ça ajoute à leur charme, vous voyez. Donc, essayons de regarder l'humanité comme si on était empli de bienveillance envers eux. Peut-être que je ne veux pas faire mon Patrick Sébastien, mais peut-être que la connerie disparaîtrait non pas parce que les cons ne seraient plus là, mais parce que dans notre regard, il y aurait plus d'indulgence, vous voyez ? Mais ça, c'est totalement utopique, évidemment.
On va essayer de travailler les uns et les autres notre indulgence à l'égard des cons. Un grand merci, Jean-François Marmion. Le doute rend fou, la certitude rend con. C'est ce que vous écrivez dans votre livre, hein, Psychologie de la connerie.
Oui, mais ça, j'en suis pas sûr non plus.
Ah, décidément. Merci encore à vous. Bonne journée et à bientôt. Merci. Je me tourne vers la sémiologue Ophélie Hetzel. Pauvre con. Elle est intéressante, cette expression. Ça signifierait qu'il existe une richesse, peut-être, de la connerie ?
Ben oui, c'est que jusque dans la connerie, il y a l'élite de la connerie qui serait la bêtise. Et puis, il y a vraiment les bas-fonds de la connerie. Celle pour qui, hélas, il n'y a plus aucun espoir. C'est pourquoi, je réagis un petit peu à ce qui vient d'être dit. Oui, on parle de la bêtise et de la stupidité depuis fort longtemps, bien entendu. Mais je ne suis pas certaine que le mot connerie veuille dire exactement la même chose que le mot bêtise ou le mot stupidité. Et précisément, la connerie, elle a quelque chose à voir avec le commun. avec ce qui est en partage. La bêtise, on en parlait tout à l'heure, la bêtise, la stupidité, l'idiotie, ça caractérisait quand même assez clairement des types, précisément. Le problème de la connerie, c'est qu'elle est, elle est jamais élitaire, en fait. Elle est, et pourtant, quand on va dire pauvre con, on va dire, bon, mais mon vieux, sera, ou mon jeune se dira beaucoup moins, mais mon vieux, toi, ton cas est vraiment désespéré. On joue pas dans le, dans la même cour, quoi.
On sait gré au passage à Jean-François Marmion de reconnaître qu'il y a un peu de marketing dans cette avalanche de conneries, que ce soit en littérature ou dans les documentaires un peu partout.
Oui, alors marketing, mais aussi appétence.
Phénomène
de mode. Électorat, il y a un électorat, donc il y a des gens qui s'intéressent à ça. Alors sans doute, ils sont séduits, comme on le disait tout à l'heure, par le fait de pouvoir dire publiquement des grossièretés. Oui. Donc ça, on est bien dans le rythme de notre époque, très narcissisé, très égocentré. En même temps, il y a aussi le plaisir de la distinction. Je suis pas comme mon voisin, c'est mon voisin le con et moi je suis très bien. Mais il y a aussi peut-être un certain plaisir un peu plus triste, un peu plus tragique, de l'auto-dévaluation, du déclinisme, qui va alors soit avec un sentiment dépressif, soit un certain cynisme, de dire...
C'est presque crépusculaire, cette manie qu'on a de répéter qu'on est con.
Oui, ou que les autres le sont et qu'ils sont partout. Donc, alors, s'ils sont partout, vraiment, c'est l'apocalypse. L'humanité, c'est vraiment pourri et c'est la fin du monde. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pense que vraiment... par quelques bouts qu'on prenne cette histoire de conneries, il y a toujours une dimension politique et idéologique dedans.
Alors Jean-François Dortier ne sera peut-être pas d'accord avec vous parce qu'il est très joyeux ce livre, Psychologie de la connerie, Jean-François Dortier.
Oui, c'est-à-dire c'est un sujet un peu provocateur, marketing, j'aime pas trop ce mot-là parce que départ, nous on a pris des risques, sciences humaines, on est des gens plutôt sérieux, plutôt rigoureux, plutôt pincés. Bon, mais on s'est libéré un peu parce que je pense que derrière, effectivement, on le fait avec l'humour qu'il faut, un second degré, vous l'avez signalé, on a des spécialistes et pas n'importe qui. Nous avons aussi un prix Nobel d'économie, Daniel Kahneman, qui a accepté de contribuer. Nous avons le philosophe Edgar Morin. Nous avons Antonio Damasio, qui est quand même aussi une des sommités psychologiques. Tous ont accepté de traiter ce problème, et pas simplement avec comme une farce. Ils l'auraient pas fait. C'est parce que c'est un sujet qui est intéressant, qui est intriguant.
Alors, puisque c'est de la psychologie, il est beaucoup question de biais dans cet ouvrage. Qu'est-ce que le biais rétrospectif, par exemple, Jean-François Dortier?
Ça participe justement, c'est Daniel Kahneman qui a mis en évidence ce qu'on appelle les biais cognitifs. Mm-hmm. C'est-à-dire les biais, c'est les erreurs de jugement.
Le biais rétrospectif, ça consiste
Par exemple, le stéréotype, c'est le biais le plus évident. Une personne a des caractéristiques, eh ben tous les gens sont comme ça, tous ceux qui leur ressemblent sont de la même façon, tous les juifs,
ça c'est
tous
une facette de la connerie,
tous les musulmans, tous les voilà, ça c'est même l'élément de base de la connerie, le stéréotypie qui consiste à manquer de discernement et à tout mettre tout le monde dans le même sac.
Et le biais rétrospectif, ça consiste à analyser un événement en disant qu'on le savait bien sûr à l'avance. Ça voilà. Il y en a beaucoup de certitudes autour de nous aussi.
On savait, on avait tout prévu, c'était
joli symptôme de la connerie là encore.
Oui. Encore une fois, il faut distinguer. On fait tous des erreurs. On en fait tous des conneries. Et quand on dit quel con j'ai été, ou quel con j'ai été, on se discerne pas un label de connerie. On se prend pas pour un con. On se prend pour quelqu'un qui a fait une erreur.
Il y a de la connerie transitoire.
Voilà. Voilà. De circonstances. Et puis, il y en a d'autres qui sont d'essence, c'est-à-dire qu'il y a quand même aussi des formes de pensée idéologiques, des formes de pensée bien ancrées, qui fait que là, vous êtes prisonnier d'un système mental très carré, très obtus, très ça. On connaît tous des gens de cette nature-là, qui fait que là, on peut dire « je suis face à un con ».
Rien n'est plus voluptueux pour un pas con que d'être traité de con par un con. Et ça, c'était Frédéric Dard.
Creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy. Just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
likes to sing along with me, but she won't sing this song. If she reads all the lyrics, she'll pity the men I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy.
Duh.
But maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
C'était Billie Eilish sur France Inter. Merci aux auditeurs qui ont participé sur Twitter à ce débat en nous proposant leur synonyme préféré du mot con. J'aime beaucoup notamment cet auditeur qui propose andouille, tartuffe ou betterave. J'ignorais qu'on pouvait traiter quelqu'un de betterave.
Le débat de midi sur France Inter.
Et j'ai une dernière question pour mes deux invités, Jean-François Dortier, qui a contribué à cet ouvrage Psychologie de la connerie, et Ophélie Hetzel, sémiologue. Question rituelle dans cette émission, sur quel sujet avez-vous changé d'avis, Ophélie Hetzel?
La musique contemporaine. Je pensais que je détestais ça, et une fois que je l'ai vue en concert, mais je crois à Radio France, j'ai été enthousiasmée.
Vous êtes amusante parce que vous aviez l'air de dire que vous ne répondriez pas. Finalement, ça vous est venu, là.
Ça m'est venu, j'ai cherché, je me suis creusé la tête.
C'est compliqué de passer pour quelqu'un qui ne change jamais d'avis.
Oui, ou quelqu'un qui change trop d'avis. Hein.
Tellement souvent. Jean-François Dortier.
Question difficile. J'ai beaucoup changé d'avis en politique. Je pense que j'ai dû avoir à peu près tous les bords, sauf certains extrêmes, peut-être. Là où je n'ai pas du tout changé d'avis au cours de ma vie, c'est depuis que j'ai rencontré la femme de ma vie. Je l'ai aimé dès le premier jour et ça fait des décennies qu'il se passe. Et là, j'espère ne jamais changer. Autrement, l'autre jour, il y a 15 jours exactement, je suis tombé sur un article qui m'a complètement bouleversé et sur un point très très important. Je me souviens plus exactement dans quel journal c'était. Et je me suis dit, tiens, voilà un argument solide. Et tu dois changer d'avis si tu es quelqu'un de sérieux. Le problème, c'est que je me souviens plus de l'auteur, je me souviens plus du sujet.
Mais non,
je me souviens
plus
du journal. C'est ballon, non?
J'y crois pas une seconde. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé. Psychologie de la connerie, je le rappelle, c'est disponible aux éditions Sciences Humaines. Merci beaucoup à vous, Jean-François Dortier. Ophélie Hetzel, merci aussi. Sémiologue, on attend avec impatience cet ouvrage de sémiologie de la connerie. Il faut l'écrire très vite.
Très vite.
D'autant qu'il y a un marché, on l'a bien compris. Le débat de midi revient lundi sur un sujet bien plus sérieux. On parlera d'accouchement. Je reçois Ovidie qui signe un documentaire à voir sur Arte. Tu enfanteras dans la douleur, les maltraitances obstétricales au cœur du débat, avec vos témoignages, si vous le voulez, à la page du débat de midi. Vous nous écrivez sur franceinter.fr.